Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Bonne fin de journée. Regardez l'heure, quasiment 18h40. Il est grand temps de défaire le monde. Maintenant avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, la fine équipe, l'info. Autrement, avec un autre regard, c'est promis jusqu'à 19h. Le menu, s'il vous plaît, cher Cyprien.
Ce soir, on défait le monde dans l'espace. Comment se débarrasser des centaines de milliers de débris spatiaux qui menacent nos systèmes de communication ? On vous offre un voyage intersidéral. Au menu également, votre rendez-vous reportage Céline en immersion au Congrès des maires. Vous découvrirez le concept de harcèlement de maires en période présidentielle. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti !
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Alerte générale !
Message d'alerte entendu dans la station spatiale internationale.
Non, non.
Alors c'était pas celui-là. La nuit dernière, celui-là c'est plus dans Taxi le film. Bref, pour se débarrasser d'un vieux satellite, les Russes ont tiré dessus. Résultat, des débris spatiaux en pagaille qui ont menacé l'ISS. Vous en parliez avec Thomas Pesquet tout à l'heure. Du coup, avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi d'aller voir ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
L'espace est-il réellement pollué par des milliers de débris ? Comment sont-ils gérés ? Est-ce qu'on les évacue d'une manière ou d'une autre ? Et sont-ils réellement une menace ?
Pour tout comprendre, on a contacté Christophe Bonal. Il est ingénieur au CNES, c'est le Centre National des Études Spatiales. C'est un peu le monsieur débris du CNES. Et d'abord, il les étudie depuis 87. Pour comprendre la poubelle spatiale, il faut comprendre le syndrome de Kessler. Explication.
Ce qui nous gêne avec les débris, c'est que quand il y a une collision entre ces débris, ils régénèrent un très grand nombre de nouveaux débris. Une collision entre deux gros débris peut refaire quelque chose comme 4000 nouveaux débris qui eux-mêmes après vont aller chercher à taper dans d'autres débris, etc., etc. Et donc ça mène à une réaction en chaîne qu'on appelle le syndrome de Kessler.
Bon, on fait quoi avec ces débris du coup ?
Mais alors pour l'instant, pas grand-chose, hein. Et vu leur nombre, il va vraiment falloir s'en occuper parce que c'est édifiant.
Pour le moment, on regarde et on laisse augmenter la population orbitale, c'est terrible. Depuis 1957, on regarde juste la courbe augmenter. Aujourd'hui, par exemple, on estime qu'il y a à peu près 36 000 objets de la taille du poing. Ou plus, il y a 10 000 très gros, il y a 1 million d'objets de 1 cm et 150 millions d'objets de plus de 1 mm. Alors 1 mm, c'est pas gros, mais lancé à une vitesse orbitale, ça a la même énergie qu'une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure. Donc même 1 mm dans un satellite, ça peut faire des dégâts terribles.
Ah oui, forcément. Et on a des projets, des techniques pour... Je ne sais pas, moi, nettoyer l'espace.
Alors, la réponse est oui. On n'a rien fait depuis 1957, ouais. Mais en 2025, une mission devrait s'en occuper. Alors, ça fait un peu film de science-fiction, mais normalement, ça devrait fonctionner. Écoutez bien.
Il faut développer des techniques qui ressemblent pas mal à des techniques de chasse ou de pêche. Par exemple, on utilise des grappins, des harpons, des filets, des tentacules, des bras robotiques. Enfin, il y a plein de méthodes qu'on a testées au sol, voire même en échelle réduite en orbite. Et donc le principe, c'est qu'on a un espèce de chasseur. Le chasseur est équipé de propulsion qui va s'accrocher à un gros débris et va contrôler le débris jusqu'à le faire rentrer dans les hautes couches de l'atmosphère et dans le sud du Pacifique. Et c'est vraiment des robots télé. Guidé, hein. Il n'y a absolument aucun intérêt à avoir un bipède à bord. Les sessions de manip qui peuvent être dangereuses. Les débris sont ce qu'on appelle non coopératifs. Vaut mieux, nettement mieux, le faire juste en robotique et c'est beaucoup moins cher.
Et juste le tir russe là, dont on parle depuis hier, on est d'accord qu'il n'avait pas vocation à nettoyer l'espace.
Hein. Alors pas du tout, là on est vraiment sur la guerre des étoiles en fait.
Il faut comprendre que la manip là n'est absolument pas faite pour se débarrasser d'un débris. C'est juste une démonstration de force, c'est juste une démonstration de manœuvre anti-satellite. Si vous voulez, l'idée c'est je suis capable de tuer mon satellite à moi, donc je suis capable de tuer votre satellite. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui a déjà été fait un certain nombre de fois. Les Américains en 1985, puis les Chinois l'ont fait, plus récemment les Indiens l'ont fait également. C'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est totalement interdit, bien évidemment.
Et la France, on l'a entendu, a condamné cette opération en traitant les Russes, je cite, de saccageurs de l'espace.
Ouais, ce sont les mots de la ministre des Armées, dont le porte-parole sera, vous pourrez l'entendre, dans le journal de 19h, dans un peu plus d'un quart d'heure sur RTL.
sous les radars.
Allez, tous les soirs, dans On défait le monde, l'info qui est passée jusqu'ici totalement inaperçue.
Et ce soir, hasard du calendrier de la grande spirale de l'information. Alors qu'on sort de la COP26, eh ben on apprend que la vente des jets privés explose, Laurent.
Oui, les compagnies spécialisées n'arrivent plus à répondre à cette forte demande. Un chiffre qui montre cet engouement. Plus de 4 millions de vols en jets privés ont lieu cette année. C'est plus qu'en 2019. Et comme les appareils neufs ont du mal à sortir des usines avec la pénurie de composants, ceux d'occasion s'arrachent. D'ailleurs, si vous souhaitez commander votre futur jet privé, soyez patient. On parle d'un délai qui va jusqu'en 2024. Le nombre de livraisons devrait passer de 700 jets par an aujourd'hui à 900 d'ici 2025.
Mais alors, comment on explique cet engouement pour les jets privés,
La crise sanitaire. L'activité aérienne n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. Le marché redécolle doucement. Le jet privé est alors une solution plus pratique
Pour
ces personnes fortunées. Pas d'avion de ligne, on prend le jet.
On n'y pense pas souvent.
Non, c'est vrai.
Certains préfèrent aussi délaisser la première classe, par exemple, d'un avion de ligne commercial rempli de passagers par crainte du Covid-19. Après, pour votre carte bleue, Julien, comptez tout de même, pour le prix d'un jet privé neuf, en fonction de vos désirs évidemment, entre 3 et 90 millions d'euros.
Il va falloir jouer au loto là.
Même plusieurs fois. Et à l'heure des nouveaux engagements après la COP26, n'oubliez pas qu'il représente 20 fois plus de CO2 par passager qu'un avion de ligne.
Voilà, préférer le train, c'est bien mieux. Merci beaucoup pour cette info passée.
C'est moins cher, surtout.
Surtout qu'on ne les achète pas.
C'est sûr.
Effectivement. Oui, alors Damien.
On se contente d'un billet, nous.
Damien me demandait dans l'oreillette s'il est possible d'acheter un train privé.
En cas de grève.
Toujours plus.
Je n'ai pas encore la réponse à cette question. On va enquêter. Allez, une petite pause. On continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Une info municipale. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller. Dans On défait le monde.
18h48, on continue de défaire le monde effectivement dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner tout à l'heure.
Le congrès des maires s'est ouvert aujourd'hui, on va en parler dans un instant avec Céline qui s'y est immergée ce matin.
Oh là là.
Et ouais, elle s'en remet pas. Et justement, première info pour briller sur les maires, Laurent.
Ah oui, comment différencier un maire d'un député ou d'un sénateur?
Ah ça c'est une bonne devinette ça. Hein. Oui.
Ils ne portent pas leur écharpe tricolore dans le même sens, je vous explique. Les maires la portent avec la couleur bleue près du col, de façon à apparaître de gauche à droite le rouge, le blanc, puis le bleu, tandis que les parlementaires mettent l'écharpe avec le bord rouge près du cou, ce qui donne de gauche à droite bleu, blanc, rouge.
Donc quand on regarde les maires, ils ont l'écharpe à l'envers.
Mais ça vient d'où, c'est une tradition.
Ce sont des règles inscrites dans le code général des collectivités territoriales.
Ça c'est une super info pour briller au dîner, j'avais jamais remarqué.
Maintenant vous allez l'observer.
Si vous croisez votre maire, vous dites bah, monsieur le maire, vous avez l'écharpe à l'envers. En fait, c'est fait exprès.
Vous êtes au courant.
Très bonne info pour briller au dîner.
RTL. Céline. En immersion.
Et oui, régulièrement, vous commencez à en avoir l'habitude. Céline défait le monde directement sur le terrain.
Et ce matin, passage obligé, Céline, vous êtes partie en immersion au congrès annuel des maires de France à Paris, porte de Versailles.
Oui, rendez-vous annuel de tous les maires de France, des élus qui, cette année, sont très sollicités par des candidats à la présidentielle en quête des sacro-saints parrainages.
Ah mon Dieu, presque tous les jours. Et en plus, en arrivant ce matin à l'entrée du volet des congrès, les collaborateurs à Zemmour. Hein,
Ah ben, ça a été le premier contact en arrivant.
Nous, on attendait pour rentrer. Et voilà, on était sollicités, justement. Il y avait ce démarchage.
Je lui dis non, non. J'ai même rajouté que je préférerais me casser une jambe que de le faire.
Et vous êtes encore debout.
Et je suis encore debout. Et j'espère encore pour longtemps.
Et certains candidats, debout, donc, ont même fait le déplacement, mais aussi en personne, pour se faire connaître. Hélène Thuy, par exemple, la candidate du Parti Animaliste. Et elle ne s'en cache pas.
Bah c'est un véritable chemin de croix parce qu'effectivement, il faut aller rencontrer les maires.
Chemin de croix, sympa pour les maires. On continue.
Déjà, leur faire connaître la candidature. Mais le principal obstacle, c'est surtout que la majorité des maires ne veulent parrainer aucun candidat.
Et oui, échauder les maires, d'autant que pour cette présidentielle, les règles ont changé désormais. Tous les parrainages seront rendus publics.
Ce qui fait reculer beaucoup de collègues, hein, c'est qu'on est publié au JO. Après, bon, dans les petites communes rurales, on est catalogué. Hein. Depuis que je suis maire, je n'ai jamais donné ma signature, je ne la donnerai pas.
Et il est maire depuis 77 quand même.
Ouais.
Mais heureusement pour les candidats, tous ne sont pas aussi fermes qu'Ernest Auchard, que vous venez d'entendre, maire d'Annecan dans le Pas-de-Calais. Alors sans attendre ce congrès, depuis des semaines déjà, les présidentiables tentent de glaner les parrainages.
Oui, on est sollicité de tous les côtés, mais c'est surtout des courriers, quelques coups de fil, de demandes de rendez-vous parfois.
Beaucoup de communications téléphoniques, de mails.
2 à 3 par semaine, depuis au moins un mois et demi.
Alors pour l'instant, j'ai un onglet. Je les mets tous dans l'onglet et on verra
On verra plus tard.
Des semaines, vous l'entendiez, voire même des mois que ce démarchage a commencé.
Moi, j'ai reçu même quelqu'un qui voulait parrainage de lutte ouvrière. Il y a de ça 8 mois. Donc, c'est prêt à la messe. J'ai reçu le bureau, venait commander une signature. Je ne l'ai pas donné non plus, d'ailleurs.
Bah non, elle ne l'a pas eu, mais parfois, ça va plus loin.
Bon, si j'étais démarché, alors, ils sont venus chez moi sur un week-end. Je leur ai dit que ce n'était pas tellement le lieu. Je leur ai demandé de revenir sur mes permanences de mairie. Ils sont revenus sur le week-end chez moi. Bon, il se trouvait que j'avais, pour l'anecdote, un repas familial. J'écoutais, je suis désolé, mais là, c'est mon espace privé, donc j'entends qu'ils sont respectés.
Et forcément, avec la multiplication des prétendances, ça n'arrange rien.
Alors, il y a des candidats connus, bien sûr, mais il y en a effectivement que je découvre.
Il y a tout un tas de demandes. C'est vrai qu'il y en a des très, très farfelus.
Il y a des gens inconnus, hein. Ça devient compliqué. Je suis maire depuis le troisième mandat. C'était plus simple quand il y avait la droite et la gauche.
Bah oui, c'est sûr. C'était plus facile pour les journalistes politiques aussi. Hein.
Céline en immersion.
Voilà, la drague un peu lourde au congrès des maires de France.
Et on rappelle, c'est 500 parrainages.
Hein, 500 parrainages. Bon, pour certains, on l'a compris.
Ça va être dur.
Il y a encore un peu de boulot. Allez, une petite pause dans un instant. Une nouvelle info pour briller au dîner, pour briller aussi devant le match de foot du soir. A tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h55, bonne fin de journée avec RTL. On continue de défaire le monde. Voici une nouvelle info pour briller au dîner ou plutôt devant le match de foot tout à l'heure.
Et oui, ce soir c'est foot, Finlande-France, match pour du beurre, puisque la différence des Italiens. Pour du beurre,
ouais.
Puisque la différence des Italiens et des Portugais.
Nous, les
nous
Français.
On est qualifiés. Et oui. Mais Céline, vous nous faites quand même briller avec l'hymne finlandais. Hein.
Oui, avec cet hymne-là que vous allez entendre. Car cette mélodie, un peu couverte, c'est vrai, là, par les paroles, est aussi celle de l'hymne estonien. Ah. Oui, la même musique pour deux pays différents, composée par l'Allemand Friedrich Passius en 1869, et dont les paroles sont tirées d'un poème en suédois.
Ah oui, tout est normal.
Logique.
Pourquoi, les paroles en suédois?
Pourquoi
Parce que c'est compliqué.
Pourquoi c'est incompréhensible?
Qu'est-ce qui n'était pas clair, Julien?
Pourquoi estonien, finlandais, suédois?
Parce qu'ils ont tous trouvé la musique jolie, la musique de Monsieur Passius. Et pourquoi les paroles en suédois? Parce qu'en fait, elles ont été écrites par un poète finlandais, mais qui racontait la misère et le courage des Finlandais mobilisés dans l'armée du royaume de Suède à l'époque, pendant la guerre contre l'Empire russe.
J'ai pas tout compris.
C'est pour ça que j'avais pas tout expliqué au départ.
Mais vous êtes tellement calé en histoire de la Finlande et de la Suède que je vais vous donner le point ce soir. Vous en convenez.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, on vient à votre rencontre et vous nous racontez vos projets, vos combats.
Et en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, Laurent, vous nous présentez quelqu'un qui se bouge pour que le handicap n'en soit plus justement.
Katia Dayan, elle se bat au quotidien pour mieux insérer les personnes en situation de handicap, briser les tabous, créer de l'emploi avec son agence de communication et entreprise adaptée, les Papillons de Jour. Bonsoir Katia.
Bonsoir.
Que proposez-vous aux entreprises?
De communiquer, d'informer, de former. Alors les Papillons de Jour, c'est vrai que c'est une entreprise adaptée. Nous sommes avant tout une agence de communication et nous avons, pour la petite histoire, 80% de salariés en situation de handicap. Nous travaillons vraiment sur comment insérer des personnes en situation de handicap en entreprise. Nous servons aussi de passerelle vers l'emploi. Donc nous, sur le terrain, avec une certaine expérience, on propose aujourd'hui des campagnes de sensibilisation. On crée des outils de formation pour les entreprises afin d'accueillir le mieux du monde des personnes en situation de handicap.
Il y a un déficit de l'emploi des personnes handicapées, vous le constatez ?
Oui, tout à fait. Il y a une loi depuis 2005 qui est une entreprise de plus de 20 salariés doit embaucher 6% de son effectif à temps plein de personnes en situation de handicap. On est loin du compte aujourd'hui, mais on va rester positif. Il y a une véritable volonté des entreprises, parce que on communique de plus en plus sur le handicap. 80% quand même en France des handicaps sont invisibles.
C'est quoi les handicaps invisibles?
Toutes les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, le diabète, le cancer. On a un problème de dos, on a été opéré, on a eu un accident de vie. On se retrouve demain avec des handicaps que l'on ne voit pas, mais qui sont pourtant là.
Et vous avez décidé de lancer cette semaine une campagne pour réveiller les consciences face aux difficultés rencontrées avec 5 messages très forts.
Donc c'est handicap, parce qu'on va rester positif, surtout après le Covid.
Ah oui, handicap.
Voilà, c'est ça. Handicap, handicap. Et du coup, on a des messages, on a décidé justement de relever un peu le défi. Vous avez brisé les tabous sur le handicap, handicap, et vous. Vous avez aussi stop à la discrimination, handicap, et vous. Et vous avez l'accessibilité pour tous, handicap, et vous. Je tiens vraiment sur le dernier message, j'insiste, il n'y a pas d'accessibilité en France. Il n'y a pas d'accessibilité à Paris.
On le répète, mais ça n'avance vraiment pas.
Il faut, alors si je peux me permettre, peu importe le métier, je suis en fauteuil roulant, une ligne de métro, la ligne 14, aujourd'hui, est accessible. Tout le reste, non. Les trottoirs à Paris, non. C'est dramatique.
Et il ne faut pas oublier que ça nous concerne tous, parce qu'une personne sur deux, dans sa vie, sera confrontée à un moment donné à un handicap réversible ou non.
Le handicap, c'est quoi? C'est aussi la femme qui vient d'avoir des enfants, qui a des poussettes. C'est la personne âgée. C'est vous, c'est moi, demain, parce qu'on va aller au ski, on va se casser une jambe. Donc, arrêtons aujourd'hui. On fait comment?
Handicap?
Handicap.
Allez,
voilà, exactement. Handicap.
Merci Katia d'ailleurs d'être venue nous voir en studio et bravo pour votre agence de communication et entreprise adaptée, Les Papillons de Jour. Bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci Katia, bravo. Merci à vous les amis dans Défait le Monde. On se retrouve demain 18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL Soir.
À demain.
À demain, comme vous dites, juste avant le journal.